Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
La foule des grands jours à Lourdes pour le Rassemblement National Diaconia 2013. Les chrétiens français s'engagent contre l'exclusion et la pauvreté. Ils veulent mettre en valeur ce qui se vit sur le terrain en matière de charité et donner la parole aux sans-voix. C'est la une de ce magazine. L'Église catholique invite les Européens à ne pas perdre l'espérance. 63 ans après la déclaration Schuman, l'ambiance est plutôt morose. Les évêques demandent aux chrétiens de s'engager en faveur de la construction d'une société ouverte à l'absolu, axée sur la vérité, la justice, la solidarité et la liberté. Le combat silencieux des veilleurs contre la loi Taubira du mariage pour tous se répand en Europe. Nous verrons que des catholiques français vivant à Rome veulent eux aussi participer au mouvement. Et dans cette émission, coup de projecteur sur l'église au Cambodge qui accueille ces jours-ci les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux. Le Rassemblement National Diaconia 2013 a démarré à Lourdes en ce jeudi 9 mai, fête de l'Ascension. 12 000 personnes venues de toute la France, en bus, en train, en avion et même à vélo, ont participé au coup d'envoi dans la basilique souterraine Saint-Pie-X, présidée par Mgr Bernard Rousset, évêque de La Rochelle et Sainte, président du Conseil pour la Solidarité. Parmi elles, de nombreuses personnes en situation de fragilité, 1 500 jeunes et 86 évêques. Le Saint-Siège était représenté par le cardinal Robert Sara, président du Conseil pontifical Corunum et par le nonce apostolique en France, Mgr Luigi Ventura. L'Assemblée a pu aussi entendre la parole des détenus. Olivier Bonnel.
Si nous sommes ici, affirmait Mgr Rousset, c'est que nous croyons que la fraternité est réellement possible. Lancée en 2011, Diaconia est une démarche progressive sur 3 ans, placée sous le thème « Servons la fraternité, vivre une église avec les pauvres ». Les évêques de France souhaitent restituer le service de la charité au cœur de la vie des communautés et montrer que l'Église de France est proche de ceux qui sont dans le besoin, car le service des frères est l'affaire de tous les baptisés. À l'origine du projet, une réflexion de Benoît XVI sur la triple mission de l'Église dans son encyclique Deus Caritas Est, annonce de la parole de Dieu, célébration des sacrements, service de la charité. Une centaine de mouvements et de services de l'Église de France ont donc adhéré à cette initiative, ainsi que de nombreuses congrégations et communautés nouvelles, sous les auspices du Conseil pour la solidarité de la Conférence des évêques. Pour François Soulages, directeur du Secours catholique, la force de Diaconia est que son approche est fondée sur ce que les pauvres nous disent. Le rassemblement se poursuivra jusqu'à samedi. Partage de la parole, procession mariale, forum de réflexion, veillée, échange, animation musicale, artistique et spirituelle vont jalonner toutes ces journées. Dans la nuit de vendredi à samedi aura lieu la nuit des veilleurs dans la foi, avec des animations festives, des rencontres, des temps de prière et d'adoration. La prairie des sanctuaires a été transformée en un village de tentes.
Et je vous propose d'écouter Mgr Bernard Potvin, porte-parole des évêques de France, Manuela Affigi, l'adjoint à Lourdes.
Qui est déjà très présente depuis de nombreuses années dans le combat contre les pauvretés, contre les précarités. Finalement, l'Église catholique redit à travers ce rassemblement sa source spirituelle et en même temps, elle redit à la société sa disponibilité. Dans le contexte vraiment difficile que nous vivons, il est vraiment essentiel de vivre une journée comme ici à Lourdes parce que la France, qui traverse une crise très importante, a besoin de la cohésion sociale. Et les catholiques sont là pour rappeler qu'ils veulent vraiment apporter leur pierre à cette cohésion. J'aime beaucoup rappeler que les catholiques sont disponibles pour lutter contre la crise. Ils sont là, ils le montrent dans leur région, dans les diocèses où ils habitent. Le démographe Hervé Lebrun vient de rappeler dans une étude qu'il a faite de toutes les régions de France que quand il y a une tradition catholique dans une région, il constate que la résistance à la crise est plus forte parce que, dit-il, il y a une mentalité catholique de générosité, de volonté. Et je trouve que la remarque de ce démographe n'est pas du tout anodine.
Alors, le message aussi de ce rassemblement, c'est de dire que la solidarité doit aller dans les deux sens, car les pauvres ont une richesse. Qu'est-ce que les pauvres peuvent nous apprendre ?
Alors d'abord, il faut leur donner la parole, parce qu'ils n'ont pas la parole. Ce matin, dans le rassemblement qui se déroulait à la basilique souterraine, j'étais frappé de voir des personnes qui, pour la première fois, parlaient au micro devant des milliers de personnes. Pour elles, c'était vraiment un événement historique. Ça ne leur était jamais arrivé d'être entendu, d'être écouté par d'autres. Donc il faut d'abord prendre ce temps préalable de leur donner la parole. Puis il faut convertir son oreille à l'écoute de ce que l'autre nous apporte, le pauvre nous apporte. reconnaître qu'on est soi-même pauvre. Nous sommes tous pauvres de quelque chose. Et nos pauvretés sont peut-être plus difficiles parfois à reconnaître quand nous sommes bénis par les circonstances de la vie. Nous oublions peut-être que nous avons tous à entrer dans cette mentalité de pauvreté. Il y a aussi, je pense, des pauvretés qui ne sont pas toujours perceptibles. Moi, je voyais tout à l'heure, là, en cours de matinée, je voyais des gens qui n'étaient pas des pauvres financiers, mais qui étaient des pauvres sur le plan du moral, sur le plan de la psychologie. C'était des pauvres de solitude. Et c'est aussi une autre pauvreté, plus imperceptible, mais elle est très grande aussi.
Est-ce qu'il y a une intervention qui vous a touché, marqué plus qu'une autre ?
Oui, je pense que ce matin, une des interventions les plus touchantes, c'était sans doute celle qui venait des détenus de la prison de Béziers, parce que par l'intermédiaire de leur aumônerie, ces détenus avaient été enregistrés préalablement pour venir parler dans la basilique, pour dire des paroles de foi, des paroles d'espérance et aussi des paroles d'humilité devant Dieu. Je me souviens d'une phrase d'un détenu qui disait « Je suis tellement sale, Seigneur, comment puis-je parler de toi ? Comment puis-je t'accueillir ?» Une humilité très grande d'un détenu qui reconnaissait son péché et qui en même temps voulait devenir serviteur des pauvres.
C'était le porte-parole des évêques de France. J'ajoute que le comité chrétien de solidarité avec les chômeurs espère bien profiter de Diaconia 2013 pour faire sortir de l'oubli la question du chômage qui concerne 19 millions de personnes en Europe. Au Portugal, le chômage a grimpé au taux record de 17,7% au premier trimestre et en Grèce, le taux de chômage des jeunes a dépassé le seuil des 60%. On peut se demander si les participants au projet Diaconia seront les pionniers d'un nouveau modèle social. La présidence du Conseil des Conférences Épiscopales d'Europe, le CCEE, qui réunit les 33 conférences épiscopales européennes, sera reçue pour la première fois en audience privée par le pape François ce vendredi. Attendue au Vatican pour une réflexion sur les dossiers européens et les projets du Conseil, la délégation aura également des entretiens avec des dicastères du Saint-Siège. Cette visite intervient au lendemain de la Journée de l'Europe, célébrée ce 9 mai, date anniversaire de la main tendue de Robert Schuman à l'Allemagne, acte fondateur du projet européen, cette communauté de destin fondée sur les décombres de la Deuxième Guerre mondiale. Un projet que les évêques européens proposent de redécouvrir en ces temps de crise et de déprime. Thomas Chabol.
Crise économique, chômage, perte de confiance, affaiblissement des valeurs éthiques et spirituelles, les évêques européens sont inquiets. Ils mettent en garde contre la tentation de remettre en cause le processus d'intégration européen. À l'occasion de la Journée de l'Europe, le CCEE a adressé un message de solidarité à tous ceux qui ont perdu leur travail ou qui sont à la recherche d'un emploi, en particulier les jeunes et qui se sentent abandonnés. Le texte évoque également la profonde crise de sens et de foi qui rend l'avenir incertain. Il ne faudrait pas que des réflexes de peur et d'égoïsme troublent le sentiment de charité qui a toujours caractérisé le vieux continent. Le Conseil des conférences épiscopales exhorte les Européens à redécouvrir l'importance de la famille, la valeur du don et de l'accueil, en se rapprochant des plus nécessiteux. La souffrance sociale est également au cœur du message de la Comesse, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne. Alors que l'euroscepticisme avance en Europe, que les pulsions germanophones se multiplient, le secrétaire de la Comesse met en garde les dirigeants politiques et les électeurs contre la tentation de recourir à l'affrontement et à la division pour surmonter la crise. Cette logique nous ramènerait 70 ans en arrière sur un continent de haine et de division, avertit le père Patrick Daly qui invite tous les citoyens européens à relire la déclaration Schuman et à repartir du projet européen de l'après-guerre.
Cela pourrait, selon la Comesse, apporter la vision qui semble manquer à certains de ceux qui président aujourd'hui aux destinées de l'Europe. Lancé spontanément il y a quelques semaines à Paris, en marge de la Manif pour tous, le mouvement des veilleurs continue de se répandre, en France d'abord, où l'on ne compte pas moins d'une centaine de villes veilleuses, en Guadeloupe, à Londres, à Jérusalem et maintenant à Rome, où la première veillée a eu lieu mercredi soir. Résistants pacifiques, ils affichent la même détermination et poursuivent le même objectif, réveiller intelligemment les consciences face à une loi dont ils récusent le bien fondé, face à une idéologie qui, selon eux, tente à détruire les fondements même de la société. Le reportage de Manuela Affigi.
Il est près de 20h. La place de Campo dei Fiori, en plein cœur de Rome, toujours très festive, s'emplit de touristes et de Romains. Le ciel résonne de conversations, de rires et de musique. C'est une ambiance sensiblement différente qui prévaut à seulement quelques pas de là. Place Farnèse, devant l'ambassade de France, une petite trentaine de personnes, des jeunes pour la plupart, sont réunies. Ils sont assis en silence, ont disposé quelques bougies et quelques pancartes sur lesquelles les passants jettent des regards intrigués. L'espérance est un risque à courir. Veilleurs de Rome, paix, détermination, on ne lâche rien. Ils sont là pour défendre la famille, défendre le droit de l'enfant, mais pas de n'importe quelle manière. Marie, veilleuse.
C'est un mouvement qui a attiré notre attention par sa ligne, qui est la ligne de la paix, de la solidarité, mais aussi de la détermination. Et ce sont des valeurs dans lesquelles nous nous sommes reconnus pour dire notre opposition à un projet de société qui va bien au-delà du simple projet de loi Taubira qui a été accepté récemment. Et pour dire notre opposition pacifique, c'est une façon de résister pour dire nous ne sommes pas d'accord, mais nous ne nous opposons jamais à des personnes, mais à des idéologies qui sont sous-tendues dans ce qu'un gouvernement, ce que des lois cherchent à imposer et que nous refusons.
Ici, pas de cortège, pas de slogan, mais des chants, des moments de silence et des textes lus à voix haute.
La révolte naît du spectacle de la déraison, devant une condition injuste et incompréhensible. Mais son élan aveugle revendique l'ordre au milieu du chaos et l'unité au cœur même de ce qui fuit ou disparaît.
Aragon, Camus, Ionesco, les textes choisis parlent d'espérance, de résistance, de liberté, de dignité. On lutte avec l'esprit, on lutte avec les mots. Littérature et culture, ce sont les armes de ce que beaucoup nomment le printemps des consciences.
Alors ça, je suis très heureuse de cette façon de combattre sur le plan culturel. Je pense que si on peut essayer de mentir, et si le mensonge marche un peu pendant quelques années, c'est parce qu'on a oublié nos racines, parce qu'on a oublié notre culture, on a oublié tout ce qui constitue l'âme française, et puis dans les autres pays c'est pareil, et on essaie de faire table rase du passé, on essaie de dire que tout ce qui est culturel, éducation, familial, religieux, tout ça n'est rien, il faut reconstruire avec des nouvelles bases. Évidemment, les nouvelles bases sont celles qui sont inventées par ceux qui veulent faire passer des nouvelles idéologies, donc ils veulent faire table rase du passé. Donc on commence par surtout ne plus rien enseigner de cette culture, de ces textes fondamentaux, des textes qui nous appellent à la liberté, qui nous appellent à la réflexion personnelle et à l'engagement. Renouer avec cette culture, cette tradition, c'est renouer avec une expérience et c'est nous appeler à la responsabilité, c'est voir qu'on ne peut pas tout d'un coup décider que la vie, la nature, l'organisation d'une société va se décider, s'inventer comme ça en 2013 sur un coin de table. Non, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça.
Au-delà des veilleurs, beaucoup s'interrogent sur les suites de ce mouvement de contestation de la loi Taubira. Certains parient sur une transformation du mouvement. Marie.
Je pense que les gens ont bien compris que la loi était passée, qu'il y a peu de chances que les gens reviennent dessus, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on lâche ce sujet. Il y aura certainement de nouvelles initiatives. En France, on parle par exemple des assises de l'écologie humaine, d'un investissement en politique de la part de toutes les personnes qui se sont engagées pour un projet de société différent de celui qui est en ce moment proposé en France.
Ce mouvement de fond essaime et révèle une véritable aspiration, une aspiration à un modèle de société autre. Reste à savoir quelles seront les formes concrètes qui lui seront données.
Et je vous rappelle que le collectif de juristes Portalis a publié une tribune le 7 mai. Il promet de poursuivre la lutte contre la loi Taubira sur le mariage pour tous, même en cas de rejet du recours. Au Canada, les organisateurs de la Marche nationale pour la vie du 9 mai attirent l'attention sur la triste réalité des avortements sélectifs en fonction du sexe, dont sont notamment victimes les filles. L'avortement sélectif existe aussi au Canada, où le ratio garçon-fille des communautés indiennes et coréennes est nettement supérieur à tous les autres groupes ethniques composant la société canadienne. L'organisme catholique pour la vie et la famille, qui travaille en collaboration avec la Conférence des évêques canadiens et avec les Chevaliers de Colomb, note avec amertume que les nouvelles technologies comme l'ultrason permettent d'une part d'apprécier l'humanité de l'enfant à naître et d'autre part d'identifier et de cibler les filles. L'organisme lance un appel en faveur d'une culture qui respecte la dignité et la valeur de toute vie humaine. Après avoir sillonné les Philippines pendant 4 mois, les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux sont au Cambodge, où vit une église très minoritaire qui renaît avec vivacité de ses cendres. L'agence de presse Église d'Asie raconte que le reliquaire a été transporté dans un modeste village où le premier évêque cambodgien est mort de privation sous le régime de Pol Pot. Toute l'église s'y est retrouvée pour une messe d'action de grâce autour du vicaire apostolique de Phnom Penh, Mgr Olivier Schmitt-Hussler, et de son prédécesseur, Mgr Yves Ramos, aujourd'hui âgé de 80 ans. 85 ans. Fermé par les Khmers Rouges en 1975, le Carmel de Phnom Penh a été refondé et inauguré en 2010 par Mgr Schmidt-Hössler. Il accueille aujourd'hui 6 religieuses d'origine coréenne. Mgr Olivier Schmidt-Hössler nous parle de cette petite église cambodgienne qu'il dirige avec passion et enthousiasme.
90% des chrétiens cambodgiens sont les chrétiens de la première génération. Il y en a beaucoup qui ont été baptisés après 2005. Nous avons aussi beaucoup de chrétiens vietnamiens. À la fois, on a des émissions radio qui sont programmées toutes les semaines. On a une petite revue pour le diocèse. On a une revue mensuelle pour toute l'église du Cambodge. On avait déjà une relation particulière avec le pape Benoît XVI parce que lors du synode des évêques en octobre dernier, il avait fait mention de l'église du Cambodge et en particulier au mois de janvier où nous avions eu un congrès autour du Concile Vatican II, nous avions reçu un vidéo-message du Saint-Père pour encourager l'église du Cambodge. Et un mois après, il renonçait à son ministère. Alors nous avons déjà créé des liens particuliers avec le Saint-Père et j'espère qu'avec le pape François, notre petite église, parce qu'on est une toute petite église avec 20 000 catholiques au milieu de 14 millions d'habitants, va pouvoir continuer à vivre ce lien, et en particulier à travers la prière et à travers les enseignements et à travers ce que le Saint-Père va nous aider à vivre et à découvrir pour notre foi.
Est-ce que, au regard de ces premières semaines de pontificat du pape François, il y a des éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour mieux faire connaître le message évangélique, améliorer l'évangélisation, faire parler plus et mieux de l'Église ?
Je vais vous dire, au moment du synode pour les évêques, j'avais fait ma petite intervention. Et à ce moment-là, j'avais appelé de mes voeux à une église simple, à une église qui soit signe de la charité, à une église qui puisse parler au cœur et qui sache toucher les gens, à une église pauvre. Eh bien, je pense que c'est le message que le Saint-Père est en train de nous transmettre. Et j'espère que pour ici nos chrétiens, parce qu'on est aussi une église pauvre, hein, on est avec quelques communautés qui sont perdues beaucoup dans les rivières, et c'est avec un langage simple, c'est avec aussi des gestes, parce qu'ici on est très sensible aux gestes, que l'on peut toucher le cœur. Cette année à Pâques, on a eu la grande joie d'avoir 300 adultes qui ont été baptisés à travers tout le Cambodge. C'est pour ainsi dire la première fois dans toute l'histoire de notre église qu'on a eu autant de baptêmes d'adultes, et c'est toujours une grande joie.
Des propos recueillis par Olivier Tosserie. Les Pakistanais aspirent au changement, à la fin de la culture de la corruption, de l'intolérance et du terrorisme. C'est l'avis exprimé par l'évêque d'Islamabad à l'approche des élections générales de samedi qui se déroulent dans un contexte de crise économique et énergétique, d'incertitude et de violence islamiste. Le scrutin est menacé par les attentats talibans qui s'opposent à la tenue de ces législatives jugées non islamiques. Dans une interview à l'agence Asia News, Mgr Rufin Anthony affirme que la majorité de la population veut la paix et le respect, mais selon les sondages, une large partie des Pakistanais, dont la moitié des jeunes interrogés, est convaincue que la charia est préférable à la démocratie. L'évêque d'Islamabad espère que le nouvel exécutif issu des élections affrontera résolument la question des minorités menacées par les extrémistes. Pauvres et victimes de discrimination, voire de persécution, les chrétiens du Pakistan n'espèrent qu'une chose des élections du 11 mai, être mieux protégés face à la montée du fondamentalisme. Une journée mondiale de prière pour la Syrie aura lieu samedi prochain, le 11 mai, à la demande d'une dizaine d'églises syriennes de différentes dénominations. Cette journée a été baptisée « La prière d'un cœur brisé ». Les chrétiens du monde entier sont invités à se mobiliser et à demander à Dieu de mettre fin à la violence. En Syrie, où il est désormais trop risqué de se déplacer dans les zones de combat, les chrétiens se réuniront localement dans les maisons, les salles de rencontre et dans les églises. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Merci de nous avoir suivis.